Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la DER des DER. Ce qui me rappelle l'histoire d'un ami dont je tairai le nom, qui avait fait son apparition lors de l'enterrement de sa belle-mère, alors qu'il avait déjà divorcé de son épouse. Rien ne l'obligeait à y assister. Et lorsque je lui ai fait la remarque, il m'a dit « C'était pour m'assurer de ce qu'elle était bien 6 pieds sous terre. » Bon. voilà. Donc, la DER des DER, ce qui me fait remarquer que le temps passe vite. Dans la bouche d'un historien, ça frise le ridicule. Mais c'est vrai, enfin, je veux dire, à chaque fois, 1h30, à tous les niveaux, micro, méso, macro, l'heure et demie passe extrêmement rapidement, à tel point que j'ai toujours des trucs à raconter que je n'arrive pas à caser. Le mois passe très vite, et les années aussi. Un quinquennat. Je ne suis pas le seul à achever son quinquennat en 2022. Je ne sais pas si c'est de bon augure ou pas. Mais voilà. Donc, la DER des DER, et comme l'étiquette et la tradition du Collège de France ne prévoient pas des conférences de clôture pour les chaires internationales, je vais m'en tenir à mon cours, avec, bien sûr, à la fin, si j'en ai le temps, quelques remarques d'ordre général, puisque je vais essayer un peu de boucler la boucle, puisque ceux d'entre vous qui étaient là en 2017 se souviendront que ma conférence inaugurale comprenait énormément de références au présent, notamment à ce que j'étais fier d'avoir appelé la cléomanie et la cléopathie de la Turquie, cette obsession de l'histoire qui faisait que l'histoire était toujours présente, notamment dans le domaine du politique, dans le discours politique, dans la rhétorique politique. Et je m'en plaignais, puisque je considérais que c'était une atteinte, en quelque sorte, à l'autonomie de ma discipline, de notre discipline. Et j'avais donné des exemples de la manière dont cette histoire était récupérée aujourd'hui et de la manière dont elle avait toujours été récupérée, en fait, depuis la République, depuis le début de la République. Et par conséquent, je vais tenter de revenir sur ce point, ce qui m'a incité à appeler... a intitulé cette leçon « Un héritage ambigu », avec une image qui détonne un peu si vous la comparez aux images que j'ai tendance à utiliser, des photographies ou des gravures, surtout du XIXe siècle. Là, c'est quelque chose de très différent. Donc, le rituel du commentaire d'image, c'est une annonce d'une série turque qui a été produite par la télévision nationale, Turquie Télévision, si vous voulez, l'équivalent de la télé nationale, sur Abdülhamid. Et dans un contexte qui était très chargé d'arguments politiques, de références à la glorification d'Abdülhamid et à des parallèles assez flagrants entre le présent, c'est-à-dire la Turquie de l'AKP, du parti au pouvoir, la Turquie d'Erdogan et l'Empire ottoman sous Abdülhamid. Je n'ai toujours pas compris le titre, le nom qui a été donné à cette série. Paraitart Abdülhamid. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisque Paraitart, c'est un terme d'origine persane. Pa, c'est le pied. Tart, c'est le trône. Paraitart, en persan, c'est le pied du trône. donc la capitale. C'est la capitale de l'Empire. Les Ottomans ont repris ça, ils l'utilisaient allègrement au XIXe siècle lorsqu'ils essayaient de recréer une image impériale d'un empire en déliquescence. Et Paitard était un terme utilisé pour décrire dans sa splendeur la ville capitale de l'Empire. Mais alors, Paitard, ça va, Abdulhamid, on comprend aussi, mais Paitard, Abdulhamid, Abdulhamid, capitale d'Empire, c'est vraiment époustouflant de... j'allais dire de bêtises ou d'ignorance. C'est vraiment étrange. Et je n'ai jamais eu la réponse à ma question. À quoi pensait-il? Qu'avait-il en tête? Si ce n'est, et c'est peut-être malheureusement ça, si ce n'est le fait d'accoler le nom d'un sultan à un terme ronflant qui évoquait le côté impérial du passé de la Turquie ou du passé imaginé de la Turquie. Donc, simplement une sorte de formule cosmétique qui mettait bout à bout deux termes qui ne pouvaient pas se conjuguer puisque l'un concernait une ville et l'autre un sultan. Mystère. Je commenterai aussi les armoiries de l'Empire. Alors, ils ont bien sûr raison à leur manière de reprendre les armoiries qui, je vous l'avais expliqué, avaient été inventées de toutes pièces par Abdulhamid. Donc, c'était de bonne guerre. Ce sapin de Noël, comme je l'appelle affectueusement, qui a été créé dans les années 1880 pour faire comme les monarchies d'Europe, pour avoir un symbole de l'État et un symbole riche. Ça fait... riche. En revanche, il y a sur cette représentation des armoiries impériales créées par Abdulhamid une erreur flagrante qui est celle de l'utilisation de trois croissants sur le drapeau vert. Le drapeau rouge symbolise l'Empire ou la partie séculière, si vous voulez, de l'État. La partie verte symboliser l'islam, donc c'est quelque chose qui a été déjà utilisé par son prédécesseur Abdulaziz, cette combinaison des deux couleurs qui sont reconnues en Occident, parce que tout se fait à l'aune de l'Occident, c'est ça qui est frappant et ironique en quelque sorte. On utilise le vert parce que le vert est reconnu en Occident comme la couleur de l'islam. On utilise le rouge et le croissant et l'étoile parce que c'est un symbole que l'Occident reconnaît très bien et un symbole, en fait, que l'Occident a en partie inventé pour représenter les Turcs à une époque où les Turcs ne se disaient pas Turcs parce qu'ils ne l'étaient pas. Bon. Mais en revanche, sur les armoiries originales d'Abdulhamid, il n'y a pas trois croissants, mais simplement le croissant et l'étoile. Donc une uniformité, on reprend en une image en miroir les deux drapeaux ottomans. Alors pourquoi trois croissants? C'est pas compliqué quand on connaît la politique turque. Les trois croissants ont été utilisés, appropriés au XXe siècle par l'extrême droite turque, par notamment le parti de l'Action nationale. Déjà, quand vous avez le nom, vous avez le mot action dans un nom de parti, ça vous donne déjà une idée de son orientation. Le MHP, Milliyetçi Hareket Partisi, donc le Parti nationaliste de l'Action, parti d'extrême droite, et je dis extrême droite pour ne pas aller au-delà, c'est ce parti-là qui a utilisé les trois croissants comme symbole de la mémoire immémoriale de la turcité, de l'État turc, des Turcs. Et par conséquent, c'est un amalgame extrêmement étrange qui, encore une fois, à mon avis, dénote une combinaison de perversion idéologique et d'ignorance. Je pense qu'ils sont convaincu, parce que ça a été utilisé par certains sous cette forme, ils étaient convaincus que les trois croissants avaient leur place dans la symbolique originelle de la période hamidienne. Enfin, vous me connaissez assez pour savoir que je ne résiste pas à des commentaires sur tout ce qui est bling-bling, et je peux vous garantir que cet alignement de décoration n'a aucun sens. Il n'a aucun sens d'abord parce que ce qui est représenté, c'est le Mejidi, l'ordre d'Abdul-Mejid, qu'Abdul-Hamid n'a jamais utilisé. Il s'est toujours décoré de l'ordre Osmani créé par Abdulaziz. Parce que, justement, Abdulaziz, c'est un peu le frère musulman d'Abdul-Mejid. Abdul-Mejid imitait, en gros, la Légion d'honneur. Abdulaziz s'est créé un ordre qui arborait les deux couleurs, le vert et le rouge, et qui, par conséquent, avait une saveur d'Orient et d'Islam. Et Abdul-Hamid, qui était très sobre dans son accoutrement, en général se contentait du pendentif, simplement, de l'ordre osmani, autour du cou, puisque, encore une fois, lorsque vous accrochez ce pendentif à votre veste, ça dénote une décoration de troisième ou de quatrième rang. Donc, ils sont complètement à côté de la plaque. Peu importe, je veux dire, mais ça fait toujours plaisir, c'est un peu la mission de l'historien, de ridiculiser ce que l'on trouve intolérable d'un point de vue idéologique. Et enfin, comment ne pas remarquer que l'acteur choisi pour personnifier Abdul-Hamid était, enfin, chacun ses goûts, mais enfin, très flatteur quand on connaît. Quand on connaît le visage d'Abdul-Hamid, il faut dire que là, on lui avait fait une fleur. Donc c'est un peu cet héritage ambigu, la manière dont Abdul-Hamid a été récupéré, et pas tout d'un coup avec la capée, mais déjà avant. J'essaierai de terminer donc sur ce rebondissement, sur cette pirouette idéologique, pour essayer, comme je vous le disais, de boucler la boucle d'un cours qui avait débuté avec des remarques sur l'actualité de la politique et la destinée de l'histoire en Turquie aujourd'hui. Cette récupération, pour vous en donner une idée, c'est quand même tiré par les cheveux, c'est-à-dire essayer de blanchir et de récupérer, de réhabiliter Abdul-Hamid, cela équivaudrait pratiquement à faire la même chose en France avec Pétain, par exemple. Impensable, impensable. Bon, voilà. Une petite pique de temps en temps, ça fait pas de mal, parce que sinon, je suis si facilement traité d'orientaliste que je dois de temps en temps ruer dans les brancards. Pour en revenir à notre petite histoire, on avait terminé sur les massacres hamidiens. Je vous avais donné un peu les dynamiques, la manière dont les massacres des années 95-96 en particulier avait commencé en Anatolie orientale, le rapport qu'il y avait avec une grande peur au sein de la communauté musulmane à l'entente de la décision du sultan d'accepter et de se conformer aux réformes demandées par les grandes puissances. J'avais discuté la part de responsabilité de l'État dans cette affaire, sans pouvoir me décider, puisque d'une part, on doit reconnaître qu'il y avait une sorte d'incandescence, de combustion spontanée en Anatolie orientale pour les raisons que j'ai citées, mais il est clair aussi que l'État lui-même avait mis en place une machine de violence et de contrôle qui participait souvent à ces flambées de violence provenant de la population locale. Et nous aurons, puisque ce n'est pas tout à fait la der, puisque j'ai encore trois séminaires, et si vous me faites le plaisir et l'honneur d'y assister, l'un de ces séminaires sera consacré à un massacre en particulier, le massacre de 1896 à Istanbul même, où j'essaierai de vous prouver, en quelque sorte, à l'aide d'une documentation qui est toujours lacunaire, mais essayer de prouver que la responsabilité du palais, du sultan, était peu négligeable. Par conséquent, pour ce qui est de l'Anatolie orientale, malheureusement, il est très difficile de jauger l'importance qu'avait pu avoir l'intervention ou la non-intervention de l'État. Et par conséquent, il me semble plus ou moins justifié de qualifier la politique d'Abdulhamid de passive-agressive, comme on dit en psychologie, puisque il se retient, il n'intervient pas lorsqu'il voit une flambée de violence, et par moments, il fait intervenir la troupe, et par conséquent, il participe directement, ou il participe par le biais de truchement de l'armée, dans le carnage. Donc, je pense qu'il faut, et les spécialistes de la période et du sujet discutent encore de la part de responsabilité de tel ou tel acteur dans ces événements. En tout cas, j'ai décidé d'avancer un peu dans le temps, nous étions dans les années 1890, et de me pencher sur d'autres moments de violence et de révolution, les deux étant toujours intimement liés, dans l'Empire ottoman, mais cette fois-ci plutôt dans les Balkans. Et avant de faire cela, ou pour le faire, je vais user d'une tactique que vous connaissez maintenant, je vais digresser sur des études pointues, dérivées de mes propres recherches, qui permettent d'illustrer, non pas en matière d'image, quoique il y en aura, mais d'illustrer, de donner un exemple de la manière dont la combinaison de la politique, de la géostratégie et de l'idéologie peuvent nous aider à comprendre non seulement les violences elles-mêmes, mais aussi le côté publicitaire de ces violences, notamment en Occident, la manière dont elles sont reçues ou dont elles sont publicisées, et puis bien sûr la part du système administratif, la part de la politique intérieure, la part de la gestion de l'Empire par le système mis en place par Abdulhamid. Mais ma première digression est en rapport avec un ouvrage que j'ai dû probablement déjà évoquer pendant les cours que j'avais consacrés aux années 1860-70 et notamment pendant mon traitement du rôle joué par un de mes sujet de recherche préféré, Osman Hamdi Bey, le peintre, l'archéologue, etc., vous vous en souviendrez, dans la construction d'une identité ou du moins d'une image plurielle de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle l'ottomanisme. Cet enthousiasme, cet engouement à partir de 1856 avec la reconnaissance de l'égalité, du moins sur le papier, de tous les sujets, on a vu que l'État se lance dans certaines initiatives qui visent à pratiquer cette égalité, ou du moins l'introduire graduellement dans sa gestion quotidienne de la politique et surtout de son image internationale, puisque il n'y a pas de mystère, nous l'avons vu avec Abdulhamid, mais c'est vrai, depuis pratiquement les Tanzimats, l'Empire ottoman est résolument tourné vers l'Occident pour l'imiter, pour s'en inspirer, pour le haïr souvent, mais aussi pour lui communiquer une image de l'Empire qui soit aussi compatible que possible avec l'attente de l'Occident. Et cette image, elle est extrêmement complexe parce qu'elle va dans tous les sens. Elle va aussi bien dans le sens de la modernité que l'on veut imposer au pays et que l'on veut montrer au public occidental, donc tout ce qui est modernité, transformation dans le sens de l'occidentalisation, mais aussi parfois et souvent dans la veine de l'orientalisme, c'est-à-dire en s'orientalisant pour encore une fois faire plaisir au public et à l'opinion publique en Occident. Et l'un de ces instruments, sorti de la main d'Osman Hamdi Bey et d'un collègue, collaborateur français, Marie Delaunay, Victor-Marie Delaunay, c'est les costumes populaires de la Turquie en 1873. Pourquoi 73 ? Parce que c'est un ouvrage qui a été préparé justement pour faire la publicité de l'Empire lors d'une de ces messes internationales de la civilisation que sont les expositions universelles. 73, c'est celle de Vienne. Les Ottomans ont déjà participé à celle de 67 et ils y ont vu l'importance qu'avait l'exposition de l'Empire, le fait de pouvoir disposer d'un espace intellectuel, mais surtout physique, pour faire étalage de ce que l'on pense aller dans le sens d'une vision positive de l'Empire. En 73, ce projet, donc les costumes populaires de la Turquie en 1873, Le titre turc, c'est « Elbiseyi Osmaniye », c'est-à-dire « les costumes ottomans », mais le titre turc ne devrait pas vous faire oublier que cet ouvrage n'a pas été traduit en turc, il n'a été publié qu'en français. Ce qui déjà vous donne une idée, vous vous souviendrez peut-être, ceux qui étaient là en 2018 se souviendront peut-être de cet ouvrage qui avait été publié par un certain Mahmoud Raif Efendi en 1798 sur les nouveaux règlements de l'Empire ottoman. Encore une fois, quelque chose qui était rédigé en français et dont on ne connaissait pas de traduction, de version turque. Ce qui prouve à quel point il est important de faire une sorte d'opération de relations publiques et d'utiliser ce matériau pour impressionner, pour toucher un public qui est essentiellement étranger. Et même à Vienne, bien sûr, cela se faisait aux temps heureux en français. Cet ouvrage est donc un album de costumes commentés. Et ce qu'il a de particulier, je ne vous donnerai pas toutes les images, mais je pense que la version en timbre-poste des 74 images, même si la résolution n'est pas excellente, vous donnera une idée de quoi il s'agit. Ce sont des photographies prises en studio par un des grands studios de Constantinople de l'époque, Seba, Pascal Seba. Et ce sont des photographies, en général de deux, trois individus, revêtant un costume folklorique, un costume national, un costume régional. Et par conséquent, avec l'aide du texte que je ne projette pas ici, cela donne une vision de l'unité dans la diversité, c'est-à-dire ce rêve qui, en 1873, était encore présent dans l'esprit des réformateurs ottomans, d'une communion de ces ethnies et de ces religions diverses sous une même identité nationale mais impériale. C'est un peu l'enjeu de la modernité dans l'Empire ottoman. Comment, tout en conservant un empire pluriethnique, pluriconfessionnel, comment se mettre à jour, comment se mettre à la sauce de l'idéologie qui domine et qui légitime l'existence des États à cette époque-là, la nation, le nationalisme. Et encore une fois, même si c'est un projet qui a avorté, je parle de cette construction de l'identité nationale, d'une identité ottomane, je persiste à croire que c'est un exercice qui a eu son mérite, en particulier lorsqu'on veut réfléchir un peu à la manière de l'histoire contrefactuelle, aux alternatives qui se sont offertes au XIXe siècle à l'État-nation. Vous avez bien sûr la grosse alternative, celle qui a survécu un peu plus longtemps, celle du socialisme, du communisme, mais celle-ci, même si elle est périphérique, même si elle est marginale, même si elle a eu sa période de gestation dans un contexte qui était en dehors et pratiquement incompatible avec les règles du jeu en Europe, je pense que c'est une expérience intéressante qui mérite d'être visitée sans nostalgie, mais simplement pour voir un peu comment on peut tenter de créer une sorte d'union de quelque chose d'aussi divers que les nationalités, les millettes, les identités ottomanes. Donc, l'album reprend en fait la géographie de l'Empire. Il commence en Occident, il commence dans les Balkans. Vous avez province par province une tentative de mélanger les populations musulmanes, chrétiennes et jusqu'à un certain point juives. Elles sont quand même plus rares, mais les trois grandes identités dans ces portraits photographiques. Et à chaque fois, vous avez un grec de l'Épire avec un musulman de l'Épire. Deux pages plus loin, vous avez un paysan bulgare, bulgare dans le sens de grec orthodoxe, mais aussi un paysan musulman de la même région, etc. Donc c'est un exercice très artificiel, si vous voulez, mais très intéressant, qui reprend quelque chose qui était très à la mode depuis, justement, les expositions universelles, celle des costumes, les costumes populaires, on aime ça. Alors, bien sûr, en France, on ne fait pas ça autour de la religion ou autour des identités vraiment ethniques, mais plutôt régionales. On aime le costume breton, les grands nœuds papillons des Alsaciennes, etc. C'est quelque chose qui se pratique dans pratiquement tous les pays d'Europe, mais à une échelle qui, bien sûr, est incomparable avec la diversité qu'offre l'Empire ottoman. Et ça se termine avec la Tripolitaine et le Yémen, donc une hiérarchie géographique qui a aussi un sens culturel, puisque pour les Ottomans aussi, le cœur de l'Empire, c'est plutôt les Balkans et l'Anatolie occidentale. Et puis, plus on s'en éloigne, plus on entre dans des territoires qui commencent déjà dans l'imaginaire ottoman à représenter un Orient. L'Orient se crée son propre Orient. Et cet ouvrage est, il faut le dire tout de suite, est un flop. C'est un flop puisque l'imprimeur et le photographe chargé du projet n'arrivent pas à produire le nombre requis pour l'exposition de Vienne. On arrive tout juste à en envoyer une demi-douzaine ou peut-être une douzaine. Et ça aussi, c'est un problème historiographique extrêmement important de mon point de vue, puisque j'ai toujours défendu la notion de l'inutilité de se concentrer sur un objet sans lui donner un contexte réel, un ancrage dans la pratique. Et pour un ouvrage, par exemple, une question de réception, de diffusion, de réception et de perception. Et le problème, c'est que la plupart des historiens se sont lancés dans une étude de cet album sans vraiment se soucier de savoir s'il avait ou non circulé. C'est un peu la métaphore de l'arbre qui tombe au milieu de la forêt et que personne n'entend tomber. Qu'en faites-vous ? Que faites-vous d'un ouvrage qui n'est pas lu ? Même si son contenu est très intéressant, comment traiter ce contenu ? Comment lui donner un véritable contexte plutôt que d'imaginer quelque chose qui se lit au fil des pages, mais qui n'a pas vraiment d'impact si vous n'arrivez pas à le placer dans les mains des lecteurs. Et c'est un problème qui est très courant en histoire ottomane, puisque la plupart des informations que nous avons sur les produits, entre guillemets, culturels, est une information en surface. Nous connaissons l'objet, mais nous n'en connaissons pas l'impact parce que c'est peu documenté ou alors parce que les gens ne s'en soucient pas vraiment. Or, le plus important, c'est de suivre un produit culturel dans toute sa carrière, à partir de la conception, de la production, jusqu'à la réception ou le refus, parfois. Et ça, c'est important. Et c'est un peu dans cette optique que je me suis penché sur les archives ottomanes pour essayer de voir si j'avais des documents concernant cet album et sa diffusion. Et quelle n'a pas été ma surprise de trouver qu'il y avait deux moments fort de la carrière de cet ouvrage, bien après sa production, donc 73, n'est-ce pas, bien après, en 99 et en 1905, deux épisodes très particuliers où l'attention de l'État a soudain été dirigée vers le contenu de cet ouvrage. La première est très intéressante puisqu'elle s'inscrit tout à fait dans l'idéologie islamique d'Abdulhamid. Nous l'avons vu, Abdulhamid s'est inventé une idéologie islamique, il s'est reporté sur l'islam comme l'élément de cohésion le plus valable, le plus fiable, le plus rentable dans sa politique intérieure. Je ne parle pas de la politique extérieure et du panislamisme, je parle simplement de son appui sur l'islam pour essayer de fédérer ce qu'il lui restait d'une population qui était, souvenez-vous, des changements démographiques, qui représentait désormais pratiquement les trois quarts de sa population. Par conséquent, l'islam devient quelque chose de très important, et c'est dans cette optique-là qu'est déclenché en 1999, une enquête concernant cet ouvrage. Alors, l'enquête est déclenchée par ce qui prouve mon argument de la non-diffusion de ce livre, puisqu'il s'agit de revendre les invendus, les stocks. Et c'est là qu'on a la première quantification des stocks des invendus, et en gros, ça représente à peu près 90% de la production. Donc, déjà, ne serait-ce que par un moyen détourné, je peux prouver que l'ouvrage n'a pas circulé, ou très peu circulé. Mais lorsqu'il s'agit de les vendre aux enchères, quelque chose qui revient au ministère des Finances et qui prouve, encore une fois, qu'un des problèmes de l'époque, c'est justement d'essayer de minimiser les dépenses et de maximiser les revenus dans une situation budgétaire qui est excessivement fragile. Donc on essaye de se faire un peu de sous à partir de n'importe quel revenu. Or, lorsque le ministère des Finances décide de mettre cet ouvrage à l'encan, un certain Vafir, est-il Bey, est-il FND, probablement FND, censeur au ministère de l'Instruction publique, se saisit de l'affaire et remarque que les pages 120, 206, 230, 237 et 304, extrêmement méticuleux, de cet album représentent des femmes musulmanes modestes. Alors, c'est une expression qu'il est très difficile de traduire. Muhaddirat islamiyeh. Ce sont les femmes voilées de l'islam, qui est une formule consacrée pour souligner la modestie vestimentaire de ces femmes, le fait qu'elles sont couvertes par le voile, et qu'elles sont représentées en habits d'intérieur et d'extérieur, et que par conséquent, on voit des parties de leur corps, de leur visage surtout, qu'il ne faudrait pas voir. Et sur ce, la vente est arrêté, et le ministère de l'Instruction publique, fondant sur le rapport de son censeur, écrit à l'administration, au palais, en disant que l'ouvrage ne pourrait être vendu qu'à condition d'éliminer, d'arracher les pages incriminées. Les voici. Je vous ai encerclé en rouge toutes les femmes dévoilées qui avaient froissé le censeur. Alors, c'est intéressant, d'abord parce que c'est un exemple concret du fonctionnement de la censure. C'est intéressant aussi parce que cela prouve à quel point, en quelques 25 ans, la politique de l'État a complètement changé. En 73, on veut montrer des femmes, pas forcément dévoilées, mais on veut montrer la diversité. Et on ne peut pas les cacher toutes. De toute façon, ce ne sont probablement pas des musulmanes, celles qui sont dévoilées. Comme il était de coutume dans toutes les photographies de studio qui vendaient aux touristes des images de femmes turques plus ou moins dévoilées, c'était des actrices, c'était des modèles qui étaient généralement non musulmanes. Donc, mais en 73, on voulait faire étalage de cette diversité, de l'unité dans la diversité. On voulait vendre la diversité comme une des vertus, une des forces de l'Empire ottoman. Et par conséquent, c'est une publication officielle qui se dévoue, qui se consacre à cette mission de charmer le public occidental avec cette vision extrêmement plurielle de l'Empire. 25 ans plus tard, cette politique de l'État n'a plus de raison d'être, puisqu'elle a été remplacée par l'autocratie d'Abdul Hamid, une autocratie qui, je l'ai déjà dit, a beaucoup d'aspects modernes, même plus modernes que dans les années 1870, on en verra quelques exemples, mais qui tient à conserver un ancrage fort dans la rhétorique islamiste, dans la défense de la charia, et par conséquent, voit absolument d'un mauvais œil la possibilité même de recycler un ouvrage qui pourrait tomber en des mains étrangères, c'est toujours ce dont on a peur, et par conséquent, mettre en danger, mettre en péril la politique de l'Empire. Donc, 1899, la censure à l'œuvre et la censure qui défend la cause de l'islam qui défend la politique d'Abdulhamid de l'islamisme et qui, par conséquent, renie en quelque sorte la continuité de l'État, renie ce qui avait été fait 25 ans auparavant. Les exemples de ce genre abondent dans les archives. La censure islamique des images est quelque chose que l'on voit pratiquement régulièrement dans les archives. L'un des exemples typiques que j'ai aussi étudié, c'est celui de la censure des cartes postales de Sainte-Sophie, puisque Sainte-Sophie est au centre des préoccupations des touristes, des Occidentaux. On veut voir l'intérieur de ce qui est une mosquée et qui, par conséquent, n'est pas forcément accessible lorsqu'on se rend à Istanbul. C'est un monument de renommée mondiale. Qu'est-ce qu'on fait ? On en vend la carte postale. Et il n'y a jamais eu la moindre interdiction à ce que l'intérieur de Sainte-Sophie fût photographié. Mais à un moment, à peu près à la même époque, un sous-préfet de je ne sais quel patelin en Grèce du Nord écrit au palais, dans un excès de zèle, en disant « Nous avons constaté que beaucoup de cartes postales circulaient, puisque la carte postale, c'est quand même quelque chose, c'est un élément très moderne et un élément de diffusion extrêmement important. Beaucoup de cartes postales qui circulent, et sur ces cartes postales, on voit l'intérieur de Sainte-Sophie, et à l'intérieur de Sainte-Sophie, on voit ces grands disques de bois calligraphiés où sont inscrits le nom de Dieu, le nom du prophète, le nom des califes, etc. Or, dit le sous-préfet zélé, ces cartes postales finissent généralement à la poubelle. Constatation, il est tout à fait conscient de ce qu'est une carte postale, bien sûr, et dans son excès, et ça c'est quelque chose de typique des régimes autoritaires, vous avez les plus royalistes que le roi qui vont trouver la petite bête et qui vont essayer de prouver leur dévotion, leur loyauté en allant chercher un élément qui va actionner la gâchette de la peur et de la réaction au sein de l'administration. Et effectivement, il a gain de cause et la carte postale est interdite. Donc voici le premier moment de cet ouvrage. Un deuxième est encore plus fascinant parce que beaucoup plus opaque et beaucoup plus indirect. C'est en 1905. C'est un autre censeur, cette fois-ci un censeur au service de l'administration des contributions indirectes. Chaque administration a son censeur. Et ce Kemalettin Bey ou FND écrit dans son rapport qu'il y a quelque chose de choquant dans ces images. Alors ce ne sont plus les femmes. Les femmes, on voit bien que 5-6 ans plus tard, l'incrimination de 1899 est bien présente dans les esprits. Donc il dit, non content de représenter parmi les costumes de toutes les nations et tribus musulmanes et chrétiennes des domaines impériaux les tenues d'intérieur et d'extérieur des femmes modestes musulmanes, reprenant encore une fois cette formule de Mourad Delat et Islamiyeh, cet album représente aussi la population musulmane des provinces impériales de Roumélie armée de la tête aux pieds. Tandis que les Bulgares et les chrétiens y sont dépeints sans armes. Il paraît par conséquent inopportun en ce moment d'autoriser l'expédition de cet ouvrage en Europe. Encore une fois, parce qu'on essayait de le vendre à l'encan. Et là, Kemalettin Bey ou FND, encore plus tordu que ses collègues, a trouvé un argument qui repose sur, justement, cette crainte de la mauvaise publicité que reçoit l'Empire en matière de violence perpétrées contre les populations chrétiennes. Hein, depuis 1820, on a déjà vu des exemples de cette tentative d'enrayer la mauvaise publicité faite en Occident en créant des images de la victimisation, par exemple, des femmes musulmanes lors de la guerre de 77-78. Vous vous souviendrez de ces images qui avaient été recomposées. Là, c'est un autre travers de la même question. On veut éviter de donner aux Occidentaux les moyens de leur politique, c'est-à-dire des indices qui pourraient être exploités pour défendre l'idée de la violence innée des musulmans et de l'oppression dans laquelle vivent les non-musulmans. Les photos incriminées sont moins nombreuses. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'il s'agit des provinces des Balkans. La même sensibilité, et j'y reviendrai, n'est pas exprimée pour les autres provinces, puisque dans le costume folklorique, disons, des provinces, ce genre d'attirail est courant. D'ailleurs, ce sont des armes blanches pour la plupart, des sabres, des yatagans, etc., des pistolets, des mousquets d'un certain âge, rien de vraiment très violent, plutôt quelque chose qui va tout à fait dans le sens de l'orientalisme, de la construction de l'image de l'oriental, vêtu de beaux costumes bigarrés et armé jusqu'aux dents de ces armes plus ou moins obsolètes. Avait-il raison ? Alors, je me suis amusé à compter les musulmans et les non-musulmans armés. Il avait à la fois raison et tort, puisque, effectivement, il n'y a pas de chrétiens ou de juifs armés. Mais en revanche, tous les musulmans ne sont pas armés, ce qu'ils prétendaient. Ça n'est que la moitié. Donc, statistiquement, il est un peu à côté de la plaque. Mais peu importe, l'essentiel est de voir que, encore une fois, des images, un album qui passait très bien en 73, qui représentait, en quelque sorte, l'image que voulait donner de lui-même l'Empire ottoman, en 1905, est devenu une sorte d'anathème à éviter, à censurer. Et pourquoi ? Parce que, justement, en 1903, 1904, 1905, les Balkans sont à feu et à sang. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce censeur n'aurait probablement pas réagi quelques années plus tard. Il réagit parce que, justement, les Balkans, et en particulier la Macédoine, est en effervescence. Des comités bulgares, l'armée ottomane, bien sûr, des comités musulmans, des comités grecs, la Grèce à deux pas. Il y a un nombre extraordinaire d'acteurs qui rivalisent pour le contrôle d'une région extrêmement instable. La Bosnie-Herzégovine est déjà sous domination, sous patronage autrichien. On sent bien que ce sera bientôt le tour de la Macédoine. Qui va pouvoir récupérer les restes de ces lambeaux de territoire ottomans dans les Balkans? Et vous le voyez, donc, dans les années 1903, en particulier, l'année 1903 est une année particulièrement violente, j'y reviendrai. Vous avez tous ces comités révolutionnaires. Quand je dis comité, c'est une référence à ce que j'avais présenté la dernière fois avec le costume de bandit, un peu de grand chemin, mais assez noble, de ces gens armés, de ces civils qui se militarisent pour une cause nationale. Ce sont des membres de comités, et des comités, vous en avez profusion. De même qu'en Anatolie de l'Est, vous avez le parti Hintchak qui essaye de fédérer des comités et en faire un mouvement qui serait plus politique que simplement guerrier. Dans les Balkans, vous en avez encore plus pour la bonne et simple raison qu'il y a des acteurs, il y a une fragmentation de la politique dans les Balkans qui est époustouflante. Encore une fois, vous avez trois États et demi, puisque la Bulgarie, sans être indépendante, est déjà autonome. Vous avez la Serbie, vous avez la Grèce, et vous avez bien sûr l'Empire ottoman. Et puis, vous avez tous les comités locaux qui représentent diverses ethnies, divers groupes religieux, et qui essayent de vaincre les autres pour établir leur propre hégémonie sur ce territoire. Et par conséquent, le bon Kemal Ettin Efendi est tellement obsédé, est tellement exposé à cette information et cette publicité de violence en provenance des Balkans, mais aussi en provenance d'Occident, qu'il réagit de manière, entre guillemets, paranoïaque. Il va essayer de freiner ce qu'il considère être un danger, de dévoiler en quelque sorte un élément de la violence dans cette région qui irait à l'encontre des intérêts de l'Empire. Et il n'a pas tort, encore une fois, puisque, et c'est là la deuxième digression que je vous présente et qui, elle aussi, repose sur un projet de recherche que j'ai effectué sans le publier intégralement, sur l'histoire des têtes coupées. Les têtes coupées. Alors ça aussi, c'est quelque chose de fascinant. La décapitation, je ne parle pas que de l'Empire ottoman, je parle du XIXe siècle, et notamment de la vision occidentale des populations non occidentales qui pratiquent ce genre de supplice, ce genre d'exécution. Les Chinois, par exemple. J'ai, entre autres passions, la passion de la carte postale, puisque je la considère un reflet, un témoignage de l'époque, et en plus un reflet dont on arrive à tracer un peu la circulation, la diffusion, la réception, puisqu'on peut les compter, puisqu'on peut suivre leur parcours, et surtout on peut lire sur ces cartes postales le texte qui les accompagne, qui est souvent tout à fait anodin. On sent bien que les gens piochent dans un stock de cartes postales au gré du hasard, et ensuite envoient ça à leur famille, etc. Mais souvent, il y a des commentaires qui sont beaucoup moins anodins et qui ont un rapport direct avec l'image. Et certaines cartes postales qui circulent au tournant du XXe siècle en Europe sont des cartes postales concernant la décapitation de détenus en Chine et la décapitation de rebelles au Maroc. En fouillant un peu plus dans ce tiers-monde vu d'Occident, on trouvera sûrement d'autres images qui vont justement dans le sens de d'une forme de pornographie violente, une pornographie de violence et de racisme, puisqu'il y a souvent un sous-texte qui est extrêmement péjoratif à l'encontre des gens qui pratiquent ce genre de supplice, la guillotine étant bien sûr différente. Encore une fois, il faut toujours se souvenir quand même de... Bon. Et on n'expose pas la tête, enfin bon, peu importe. Et l'Empire ottoman, en 1903, est soumis à une crise des têtes coupées. Pourquoi ? Parce que La Vie illustrée, encore un de ces hebdomadaires français, fortement illustrés, affiche en couverture l'image de six gendarmes de l'armée ottomane posant fièrement autour de trois têtes de bandits ou de révolutionnaires, on ne sait jamais exactement. Ici, le texte dit... groupe de soldats turcs posant chez le photographe avec les têtes de leurs victimes. Donc, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et à l'intérieur, vous avez d'autres images d'atrocités commises, voire même d'autres images de têtes coupées. On se rend compte qu'il y a tout un registre et tout un stock de photographies qui dépeignent à peu près la même chose. Leurs victimes torturées, etc. Et tout ceci est accompagné d'un texte par un certain Henri de Wendel, grand reporter, comme on en faisait beaucoup à cette époque-là, qui dit « Ces photos montrent en effet que le carnage n'est pas un fait imputable à l'emportement chez les militaires, galonné ou non, de l'armée ottomane, mais bien un fait prémédité, calculé et raisonné, puisqu'ils se font photographier en groupes sympathiques autour des têtes de leurs victimes qui, les visages en conservent les traces, furent préalablement martyrisées. Et notez bien que ce n'est pas immédiatement après le carnage, sur le lieu du massacre, que ces photographies ont été prises, mais bien chez un photographe professionnel où les têtes apportées dans des sacs par les bourreaux eux-mêmes furent disposées de façon décorative. En attendant, le sacramentel ne bougeons plus. » Oui, l'humour vraiment du chevalier du Collodion. Remise dans les sacs, ensuite les têtes des Macédoniens. Cette fois-ci, on apprend que ce sont des Macédoniens, donc des guerriers, des freedom fighters, comme on dirait aujourd'hui, suppliciés, étaient portés aux autorités par les soldats assassins qui avaient reçu l'ordre formel et supérieur de se montrer impitoyables. Et cette photographie est reprise par l'illustration, elle est reprise par la presse allemande, le Berliner Illustrierte Zeitung. Donc, tout d'un coup, l'espace public de la presse en Occident est recouvert de ces images d'une nouvelle version des tortures, supplices et autres formes d'oppression pratiquées par les Ottomans contre les non-musulmans. 1903, donc on comprend bien que Kemal Etin, même s'il n'était pas abonné à l'illustration ou à la vie illustrée, était bien au courant d'un vent de publicité qui était extrêmement négatif et qui le poussait donc à se lancer dans une opération préventive pour essayer de minimiser les dégâts, à partir, encore une fois, d'un ouvrage de nature folklorique produit 30 ans auparavant pour les besoins de la publicité de l'Empire. Les Ottomans sont alertés par cette publicité. Il y a toujours, c'est ce qui rend extrêmement intéressant les dossiers concernant la censure pendant la période hamidienne. Ils sont en général très fournis et par conséquent, quand vous les mettez bout à bout avec les publications incriminées, cela vous donne une vision très intéressante de la manière dont l'administration réagit, à quoi elle réagit, parfois des broutilles, dans ce cas c'est plus que des broutilles, et une enquête est lancée. Et la préfecture de Shkodra, de Shkoder en Albanie, déclare qu'il n'existe pas de Bulgares établis dans la province et aucune photographie n'a été trouvée de tête coupée. Donc ils essayent de voir s'il y a du vrai derrière tout cela et ils finissent par trouver que ce sont en fait des photos des années 90-91 de bandits grecs arrêtés par la gendarmerie, etc., du côté de Gorica, et qui furent amenés à Monastir et photographiés en compagnie de deux gendarmes et d'un policier, etc. À la suite de l'information, il y a 10 jours que cette photo se trouvait encore dans un studio de photographes de la ville, la dite photographie et sa plaque de verre ont été immédiatement saisies et la plaque de verre détruite. Alors, donc, il y a une vérité qui a 13 ans, qui a 12 ans, une vérité qui a un contexte différent, mais on voit bien un peu à quel point la complexité est grande quand vous voyez l'interaction d'une part de la presse occidentale qui veut alimenter un certain sensationnalisme et une pratique violente qui est évidente. On n'a pas de raison de douter de l'existence de massacres ou de violences perpétrées contre les bandits. Ça fait partie un peu du folklore local. J'ai réussi à trouver les originaux de ces photographies dans la collection d'un collègue et ami, Sinan Kuneralp. Trois des photos que j'avais découvertes dans la vie illustrée, l'illustration, etc., j'ai trouvé les clichés imprimés. Malheureusement sans contexte, c'était quelque chose qu'il avait trouvé je ne sais plus où, par conséquent on ne sait pas exactement, mais cela prouve à quel point il y avait un petit commerce. D'ailleurs, Une arrestation a lieu à Thessalonique, à Salonique, dans le magasin du citoyen allemand M. Bader, horloger vendant aussi des photographies. 350 photographies ont été trouvées représentant deux têtes coupées et une personne vivante, appartenant tous au comité macédonien. Là, c'est un règlement de compte interne, si vous voulez. Ce sont les Macédoniens qui s'entretuent. Et c'est pourquoi il y a un côté anthropologique, ethnographique extrêmement intéressant. Et c'est pourquoi je vous rappelle encore une fois excellent ouvrage de Ipek Yosmaoğlu, dont je vous avais donné le titre exact, Blood Ties, lien de sang, qui est une analyse de la violence des Balkans, dans les Balkans, et en particulier en Macédoine, pendant en ce début de XXe siècle. Donc une carte postale, et c'est pourquoi je compare cela à une forme de pornographie, puisqu'il y a une commercialisation de ce sensationnalisme par le biais de revendeurs, photographes, horlogers, etc. Et 1903, je vous le disais, est une année sanglante, non seulement par les têtes coupées, ou du moins les histoires de têtes coupées, mais aussi par des attentats à la bombe, un attentat majeur qui fait exploser la succursale de la Banque ottomane à Salonique. Encore une fois, comme en 1896, le comité nationaliste d'Ashnak des Arméniens s'en était pris à la Banque ottomane, parce que la Banque ottomane représentait les intérêts occidentaux et que par conséquent elle avait plus de chances d'attirer l'attention des grandes puissances et par conséquent, espérait-il, de promouvoir des réformes en Anatolie. Là aussi, les comités révolutionnaires de Macédoine et de Bulgarie s'en prennent à la Banque ottomane qui explose en 1903. Vous avez ensuite un procès en cour martiale, etc. Donc vraiment, il y a énormément d'effervescence, de violence. Et pourtant, le régime tient bien. C'est quand même, après la crise de 1896, Abdulhamid a réussi plus ou moins à équilibrer les intérêts occidentaux et il arrive à naviguer plus ou moins cette mer semée d'écueils qu'est la politique internationale en cette fin d'empire. Jusqu'au célèbre attentat de 1905, du 21 juillet 1905, représenté ici par la Domenica del Corriere, bien sûr une vision imaginaire. 36 hommes y perdent la vie, mais Abdulhamid réchappe grâce à un moment d'hésitation, puisqu'il est retenu, tout était extrêmement minuté. Alors ça aussi, je crois que ça fait partie de sa personnalité, le minutage de toutes les processions, de toutes les activités du souverain. D'ailleurs, il n'en avait pas beaucoup en dehors du palais. Mais ce minutage est faussé par l'interruption que représente une discussion en privé avec le cheikh l'islam. Deux minutes de retard, deux minutes d'hésitation, et le souverain est sauvé. C'est ce qui est à l'origine d'un poème par Tevfik Fikret. Je ne suis pas un inconditionnel de la poésie ottomane, notamment de cette période-là, parce qu'elle est généralement assez lourde et souvent une piètre imitation des poètes parnassiens, etc. Donc c'est généralement assez peu agréable à lire. Mais en revanche, ce poème, je le trouve très intéressant parce que il est vraiment impliqué dans la politique de l'époque. Bien sûr, il ne le publiera qu'en 1910. Bir lahza yetahruj, littéralement un instant de retard, que j'ai traduit par hésitation pour que ça rime avec nation. puisque l'exercice de la traduction de la poésie est un exercice extrêmement difficile, auquel je ne m'essaierai pas souvent, mais là j'ai pensé que c'était nécessaire parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de traduction de ce poème, et c'est un poème très fort parce que il s'adresse à la bombe, il s'adresse à l'explosion, aux nobles explosions, aux fumées vengeresses, qui es-tu, qu'es-tu, qu'est-ce qui a causé ce choc, etc. Et il la compare à un noble chasseur. Donc il est vraiment, il regrette que ces deux secondes, ces deux minutes de retard aient sauvé le tyran. Ô noble chasseur, tu n'as pas tendu ton piège en vain, tu as tiré, mais hélas, hélas, tu as raté. Et il termine par un distique qui est quand même très fort, le lâche, déni, est le terme qu'il utilise, lâche, quelqu'un d'abject, de bas. Le lâche qui continue encore d'opprimer une nation doit se plaisir à un moment d'hésitation. C'est la conclusion de ce poème, très très fort, mais encore une fois, on ne sait même pas s'il l'a vraiment, il prétend l'avoir écrit, non pas au lendemain de l'attentat, mais en 1906, une année après, ou alors est-ce qu'il l'aurait écrit en 1910, vraiment, ou 1909, une fois que la Révolution avait condamné Abdulhamid, et qu'il était bien sûr non seulement plus facile, mais même désirable de prouver ses allégeances avec la Révolution, peu importe, c'est quand même un de ces textes que je trouve extrêmement originaux et extrêmement forts, malgré la tendance générale de la littérature et de la poésie ottomane à cette époque-là d'imiter sans grand succès des styles occidentaux. La Révolution, elle couve, et la Révolution, elle couve, je vous l'avais dit, à Paris. À Paris, à Genève, à Lausanne, à Londres, mais surtout à Paris, où en 1902 se réunit une conférence, un congrès des libéraux ottomans, réunissant des personnages que l'on voit avoir des relations plutôt des attaches, des allégeances plutôt islamistes avec les grands révolutionnaires de l'époque, les intellectuels tels Ahmed Reza, etc. Deux princes, Lutfullah et Sabahattin, pas vraiment des princes puisqu'ils sont fils de princesses, qui fait d'eux des Beyzadeh, mais enfin peu importe le côté technique de la chose, ce sont deux exilés de la famille impériale qui se sont retrouvés en Occident et qui essayent de profiter de cet enthousiasme révolutionnaire pour essayer de se caser dans l'après-Hamid. Nous sommes encore en 1902, mais 6 ans plus tard, effectivement, la révolution explose. Alors cette révolution, vous le savez, elle est portée par des courants et des forces extrêmement divers. Il y a le courant civil, intellectuel, des jeunes Turcs, celui que l'on voit attablé en 1902 à Paris, mais il y a aussi la grogne des casernes, il y a l'élément militaire. Et vous savez que les deux premiers héros de cette révolution, du moins de la révolution sur le terrain, seront deux officiers de l'armée, Enver, futur pacha, à cette époque-là encore Bey, Niazi Bey, lui aussi, et ce sont des gens qui vont marquer vraiment la révolution de cet élément qui, à mon avis, est très important et qui détermine un peu le futur de la politique dans la région et dans l'Empire ottoman et en Turquie, celui d'une base militaire et par conséquent potentiellement militariste. Enver, il faut savoir, quand vous pensez que le dictateur d'Albanie s'appelait Enver Hoxha. Quand vous savez que président / dictateur d'Égypte s'appelait Anwar al-Sadat, Anwar, Enver, ce sont tous des enfants de cette révolution, c'est-à-dire que le nom d'Enver était donné à des enfants nés après 1908 pour célébrer, commémorer le prestige, la prestance, la présence de ces héros révolutionnaires qui étaient des gens comme Enver et Niazi. La révolution, alors les images de l'époque sont très intéressantes puisque c'est la première fois qu'on voit vraiment Abdulhamid dans sa calèche. L'homme qui n'était jamais photographié soudain fait son apparition. Il est un peu poussé par les événements. Il veut récupérer, conserver son trône. Il accepte donc tout de suite de rétablir la constitution. C'est un peu, toute proportion gardée, quelque chose qui rappelle la révolution de 1789 et la manière dont Louis, roi par la grâce de Dieu, devient Louis, roi des Français, et conserve son trône pendant quelques années jusqu'à commettre l'erreur de s'enfuir, etc. Mais c'est encore une fois une révolution qui, tout en amenant des promesses de libéralisme et de liberté, conserve une attache avec la tradition et n'a pas les moyens immédiatement de se défaire d'un souverain qui joue le jeu du rétablissement de la Constitution. Abdulhamid prenant des bains de foule, on le voit un peu hagard, il est loin d'avoir le faciès de l'acteur que je vous ai montré en début de séance, et encore une fois, bon, on adore dire que c'est l'homme qui n'avait jamais été photographié, etc. Le voilà qui, tout d'un coup, essaye d'adapter son image, avec pas mal de succès, d'adapter son image à cette révolution et de contenir par exemple, par conséquent, le risque de chavirement que pourrait comporter une telle transformation de l'environnement politique. Émancipation des nations. C'est le printemps des nations ottomanes. On voit partout des représentations de Turcs, Grecs, Arméniens et Juifs marchant bras dessous le long des artères principales des grandes villes. Les femmes, surtout, sont tout d'un coup... puisque depuis les années 90, il y avait de timides tentatives de promouvoir une sorte d'émancipation de la femme, toujours dans le cadre de l'islam, vraiment très timide en essayant de justifier d'une part la polygamie, mais de donner aux femmes plus de liberté, enfin quelque chose d'extrêmement complexe qu'on ne pourrait pas appeler du féminisme, mais qui dénote la nécessité de traiter la condition féminine comme faisant partie des libertés que le nouveau régime est en train de promettre à la population. Et là, cette scène d'un orateur écouté à Salonique, si je ne me trompe, oui, le théâtre de la Tour Blanche, c'est sur la corniche de Salonique, avec ce mélange des dames occidentalisées, chapeautées, etc., et des femmes voilées, toutes se mêlant pour écouter les promesses et les encouragements d'un nouveau régime. Et ce régime se veut pluriel. Vive la Constitution, liberté, égalité, fraternité. La référence à la grande révolution, Ihtilal et Kebij, comme on l'appelait en turc, la révolution française, et tout cela est décliné en cinq langues. Vous avez le ladino ici en caractères hébreux, vous avez le turc ici, vous avez le grec et vous avez l'arménien. Mais vous avez quand même une sorte de prédominance de la bannière ottomane, hein, tout cela se fait sous le parapluie de la nation ottomane, et surtout avec une présence militaire qui est quand même très, très évidente, très forte. Et bien sûr, Abdul Hamid, toujours sur le trône, encadré des symboles de ses armoiries, promettant donc une constitution, une monarchie constitutionnelle qui lui permettrait de survivre ce choc politique. Des images fort intéressantes, des images d'Épinal, ici de la plume ou du pinceau d'un certain Sotirios Christidis, un grec, un grec de l'Empire ottoman, où vraiment vous lisez très facilement le symbolisme, qui est quand même assez grossier, disons, de la nation. Enver et Niazi en train de rompre les chaînes de la nation ottomane. On reprend un peu ce qui était le symbole de l'oppression de la Grèce du temps du philhellénisme, avec des références à Kemal, Namık Kemal, Fouad, Deli Fouad Pacha, Mithat, bien sûr, Mithat Pacha, et Sabah ed-Din, le prince en exil. Tout cela, bien sûr, très grécisé, très hellénisé, puisque on parle de Zito to Syntagma, vive la Constitution, en français aussi. On parle, ici on voit à peine, mais Anagenesis, je n'écorche pas trop, Tis Othomanikis Autokratoria, le renouveau, la renaissance de l'Empire ottoman. Ce qui est intéressant, c'est que quatre ans plus tard, lors des guerres balkaniques, Sotirios Christidis, l'artiste de cette affiche, deviendra un des grands artistes illustrant l'épopée grecque contre l'Empire ottoman. Encore une fois, un rappel que nous vivons à cette époque-là dans un environnement qui combine à la fois ce que j'appelle un cosmopolitisme levantin, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes références qui sont souvent très françaises pour ce qui est de la langue, de la culture, des auteurs, etc. Il y a, ou du moins en 1908, on voit apparaître une sorte d'engouement pour le rêve d'une nation ottomane réunie qui est extrêmement alléchant pour les populations non musulmanes, puisque le problème de certaines communautés non musulmanes, c'est que même si elles sont attirées par le rêve du nationalisme et de la sécession, l'Empire ottoman reste leur territoire. Istanbul est la ville des Grecs, ils en représentent au bas mot 30% de la population, la langue la plus couramment parlée dans la rue est le grec. Par conséquent, ils ne veulent pas rompre avec cette tradition pour aller s'exiler dans une petite bourgade de province, ce que les Grecs eux-mêmes utilisent pour décrire Athènes à cette époque-là. Et c'est vrai aussi des grandes fortunes, les grands banquiers, les Ographos, les Arifis, etc., n'ont aucune intention de s'exiler dans un pays qui est encore en voie de développement, alors qu'ils ont une emprise sur un marché qui est extrêmement riche et qui, par conséquent, a tous les mérites et tous les attraits pour le développement de leurs affaires. Donc, en 1908, on voit bien qu'il y a un véritable espoir de voir la nation ottomane vivre, revivre, survivre. Liberté, égalité, fraternité, mais vous verrez qu'il y a presque toujours un quatrième terme qui s'y rajoute, et ce n'est pas choucroute, c'est justice. Justice, pourquoi ? Parce que pour les Ottomans musulmans en particulier, le terme de justice, la référence à adalet, est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui permet de contrebalancer, d'équilibrer la terreur que représente la référence à l'égalité. Encore une fois, je vous ai constamment rappelé à quel point la notion d'égalité et son application aux communautés non musulmanes est quelque chose dont les musulmans, que les musulmans abhorrent et qu'ils veulent à tout prix éviter. Ils n'ont contre cela qu'un recours, c'est celui de la justice, puisque Adalet, justice, équité, est une vertu, si l'on veut, qui peut s'appliquer dans une situation d'inégalité, dans une société hiérarchisée. À partir du moment où vous traitez bien, où vous tolérez, comme on le dit encore aujourd'hui en Turquie, où vous montrez de la tolérance envers ceux que vous jugez être inférieurs à vous, vous êtes dans une situation d'équité. D'autant plus si l'autre partie, celle qui est tolérée, accepte les termes de ce contrat social. Par conséquent, on verra toujours, pratiquement toujours, apparaître la justice en complément des trois termes représentant se référant à la Révolution française. C'est une révolution qui est vraiment populaire, du moins dans les grands centres urbains. On vend des cocardes, on vend des portraits du nouveau grand vizir. Il y a un foisonnement d'activités. Les femmes sont dans les rues. Tous les commentaires que l'on voit de cette époque sont extrêmement positifs, disons, et décrivent une situation d'enthousiasme, d'engouement, voire même d'ivresse, après 30 ans de la chape de plomb pendant 30 ans et la découverte d'un nouvel avenir. Une image, je vous la donne en deux versions, puisqu'elle a été publiée dans l'Illustration, mais aussi dans le London Illustrated News, une image d'une procession, et le texte est très intéressant, une procession dans les rues de Smyrne, une procession organisée par les Arméniens de Smyrne, célébrant la liberté qui est représentée ici en effigie par une jeune femme, avec un texte qui vaut quand même le déplacement, puisque un long cortège en tête duquel marchaient les prisonniers arméniens tout récemment libérés, sur un char orné de fleurs à profusion, un soldat turc et un arménien se tenant par les mains étaient couronnés par une très jolie arménienne, tandis que sur un autre char, un musulman, un arménien, un grec et un israélite formaient un autre groupe sympathique de nouveau. C'est tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, c'est cette excitation de la révolution qui se termine en 1909 avec une contre-révolution qui a été, selon certains, fomentée par Abdul Hamid, mais qui se termine par son abdication. Il est Abdul Hamid fatigué, n'est-ce pas, descendant de sa calèche, et là, représenté après sa destitution, le 27 avril 1909, à la suite de troubles dans la capitale qui rappellent un peu les problèmes de 1876, puisque, encore une fois, la Constitution et la Révolution sont très mal accueillis par certains segments de la population, notamment par la population musulmane un peu fondamentaliste. Les softas, encore une fois, ceux que l'on avait vus dans les rues en 1876, ressortent et demandent la charia, veulent récuser la Constitution, invoquent le pouvoir du sultan à refaire le coup de 1878, c'est-à-dire d'abroger la Constitution et de rétablir la charia comme seule règle acceptable dans l'Empire pour rétablir encore une fois cette suprématie de l'élément musulman qui était en danger, qui était mise en danger par la Révolution. Abdul Hamid ne se remettra jamais de cette défaite. Il sera exilé à Salonique, il rentrera à Istanbul lorsque la ville sera perdue aux Grecs, mais il devient aussi le symbole de l'istibdad, de l'autocratie, de la tyrannie qui est souvent moquée dans la presse satirique soudain libéré. Il n'y avait pratiquement aucune liberté d'expression dans la presse sous son règne. Avec 1908, c'est un déferlement de presse libérée, et notamment de presse satirique. Et là, on le voit en conversation avec le choléra qui sévissait, notamment en 1910, et le choléra se lamente en disant qu'il n'arrive pas à causer autant de morts que toi, dit-il à Abdulhamid. Et Abdulhamid lui apprend comment faire. Un petit bilan. Qu'est-ce que le bilan de ce règne ? Encore une fois, une modernité extrêmement développée, beaucoup d'avancement dans le côté, du côté matériel des choses. La presse sultanienne de l'époque, d'ailleurs, se fait toujours le témoin des avancées, du progrès, des exploits ferroviaires et autres du règne, qui se font en général sous la tutelle du capitalisme et de l'impérialisme occidental, avec très peu de bénéfices pour la population en général, mais on commence à voir des gares, n'est-ce pas, qui ressemblent en gros à des gares de province en France, des tunnels, etc. Et bien sûr, l'éducation, et d'ailleurs c'est là qu'est l'ironie un peu du règne d'Abdulhamid, puisqu'il a tellement contribué au développement de l'éducation qu'il a en quelque sorte miné son propre pouvoir en créant une nouvelle génération qui pouvait revendiquer ses libertés au nom de choses qu'elle avait apprises, non pas la liberté vraiment, mais cette nouvelle vision avec une éducation moderne. C'est pourquoi j'appelle toujours cette autocratie une sorte de troisième république sans la république, c'est-à-dire un énorme effort pour l'intégration de ce qui reste de l'Empire au sein de la politique hamidienne. Des écoles de filles, par exemple ici à Janina dans l'Épire, ici au Yémen, si je ne me trompe, oui, au Yémen. Donc c'est vraiment un projet qui a presque des relents coloniaux plus on s'éloigne du centre. Des bâtiments qui ont été étudiés par l'historienne de l'art et de l'architecture Zeynep Çelik et qui rappellent énormément les mairies, les casernes, les écoles de la Troisième République, justement. On bâtit de nouveaux bâtiments publics qui n'ont pratiquement pas de style, on ne va pas rechercher l'orientalisme, etc. C'est vraiment une architecture extrêmement pratique et qui vise à offrir au nouveau, à l'État modernisé, les moyens de sa politique. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun doute, le bilan est, disons, positif, avec, bien sûr, quelques bémols. Le problème, c'est plutôt l'idéologie. Et là aussi, il y a modernité, puisque le simple fait que Abdulhamid et développer des éléments d'idéologie qui, se combinant avec son désir de gouverner et non seulement de régner, ont mis en place un système autocratique, répressif, oppressif, extrêmement efficace. Il a su aussi contrôler l'élément externe que représentaient les grandes puissances et la politique internationale en jouant aussi bien qu'il le pouvait sa stratégie de la faiblesse. Et par conséquent, il a modernisé l'État, même si cette modernisation n'allait pas dans le sens des libertés et de la démocratisation du système. Au contraire, il a, en quelque sorte, modernisé le sultanat pour en faire une autocratie que l'on peut comparer avec certains régimes occidentaux ou alors avec l'autocratie des tsars de Russie à peu près à la même époque. Donc, il se défait de certaines formes traditionnelles du pouvoir, mais s'investit dans une forme d'autocratie, d'autoritarisme, de totalitarisme qui est extrêmement moderne et qui se conjugue avec des formes de violence, des formes de restriction et d'oppression qui, elles aussi, sont extrêmement modernes. Et par conséquent, il est un peu le père fondateur de l'islam politique. Il est un peu le père fondateur de l'islam, même si sa politique panislamiste a été extrêmement douce, extrêmement timide. Il a même participé, en fait, à la répression des musulmans en Chine, etc. Il n'a jamais joué vraiment la carte de l'islam contre les grandes puissances, mais il l'a quand même utilisé assez souvent comme une sorte d'arme dissuasive pour créer, ainsi que le dit Jamil Hayden, l'idée d'un monde musulman. L'idée d'un monde musulman qui va au-delà de simplement une identité religieuse, mais une identité politique avec des intellectuels tels Jamal ad-Din al-Afghani, tels Abdou, des intellectuels qui commencent à formuler une idée de la puissance islamique, de la présence islamique en des termes extrêmement modernes qui auront leur impact sur le XXe siècle, sur certains mouvements de libération post-coloniaux et bien sûr sur la Turquie kémaliste, mais surtout post-kémaliste. Et c'est pourquoi je vous donne ce passage de l'ouvrage d'un... j'ai gâché mon effet là. De Necip Fazıl Kısakürek, un ouvrage des années 60, piètre ouvrage. Necip Fazıl Kısakürek n'est pas un historien, c'est un idéologue, c'est un littérateur, mais un idéologue, dont l'objectif principal est de rétablir, de réhabiliter et de présenter Abdülhamid comme le héros ignoré d'une renaissance ottomane, avec des commentaires de ce genre qui vont dans le sens justement de le vanter et de le comparer aux grands noms de l'histoire ottomane en disant que eux, c'était facile, ils avaient déjà un empire en croissance, lui, il a dû défendre, victimisation, il a dû défendre un empire en perdition contre et envers tous, et envers et contre tous. Et par conséquent, il mérite encore plus notre admiration. Évidemment, l'objectif pour Necip Fazıl Kısakürek est de proposer une alternative à l'idéologie dominante en Turquie à cette époque-là, le kémalisme. Si le kémalisme a Kemal, Atatürk, il faudra que l'islamisme ait une figure de proue, un héros, quelqu'un que l'on puisse comparer, que l'on puisse mettre dans la balance et que l'on puisse comparer à Mustafa Kemal Atatürk. Et Abdülhamid, qui est pratiquement à 40 ans près son contemporain, qui a évolué dans le même environnement politique et géopolitique, était un héros rêvé, puisqu'il permettait de redorer le blason à l'Empire, de dénigrer la République et le kémalisme en proposant cette réhabilitation du héros si peu et si mal connu, qui avait été victime de toutes les manigances de l'Occident et des laïcs au sein de la Turquie. Alors, évidemment, j'en viens et je dépasserai de quelques minutes le temps qui m'est. C'est la dernière, donc vous me pardonnerez quelques minutes de dépassement. Erdogan est bien sûr le dernier bénéficiaire de cette lignée politique et idéologique. Et c'est intéressant, si je vous donne cette image, c'est la couverture de The Economist juste après les événements de Gezi, et c'est une couverture qui est extrêmement problématique. Bon, elle est amusante, si vous voulez, et le parallèle avec Selim III, etc. Mais elle est très mal choisie, d'abord parce qu'elle pue l'orientalisme, c'est-à-dire que accuser un homme politique autoritaire en Turquie d'être un sultan, c'est vraiment extrêmement facile. C'est extrêmement facile et ça va pêcher dans une sorte de brassage extrêmement large de tous les clichés de l'orientalisme, puisque Selim III, à la fin du XVIIIe siècle, vraiment, est-ce que c'est le meilleur exemple que l'on pourrait trouver pour critiquer Erdogan, quand on sait que Erdogan tient beaucoup plus d'Atatürk que de Selim III? Et bien sûr, s'attaquer à Atatürk ou établir un parallèle entre Atatürk et Erdogan en mettant pour le moment à l'écart les questions idéologiques et en se concentrant sur la nature du pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose qui passe très mal en Turquie, notamment dans les cercles qui sont encore kémalistes, et en Occident, puisque l'Occident a encore une vision assez pragmatique de la Turquie, que la Turquie ferait mieux de se remettre à la botte des militaires et que une petite dictature mais libérale mais laïque serait bien préférable à une démocratie qui risquerait de chavirer dans l'islamisme. Donc c'est vraiment une question problématique, mais de toute façon pour ce qui est d'Erdogan, Selim III etc. ne fait absolument pas le poids. Pour lui, c'est Abdülhamid. Alors, c'est le portrait qui est utilisé le plus fréquemment. C'est un portrait de Fausto Zonaro d'Abdülhamid. C'est le portrait qui sera utilisé. Alors là, en 2013, comprendre Abdülhamid, c'est l'histoire profonde. C'est une revue d'histoire, mais très ancrée dans le nationalisme et l'islamisme. Comprendre Abdülhamid, c'est comprendre tout. Alors ça, bon, je veux dire, c'est d'un vague et c'est d'un cliché. Bon, mais quelques années plus tard, le parallèle est désormais établi entre les deux, Abdülhamid et Erdogan, même combat. Abdülhamid'in direnişi, la résistance d'Abdülhamid, donc Abdülhamid en résistant contre qui? Contre l'impérialisme occidental, contre l'Occident, contre la chrétienté, etc. Et Yeni Türkiye'nin direnişi, la renaissance, la résurrection de la nouvelle Turquie, encore une fois, une référence à Erdogan comme étant le digne descendant et représentant d'une même situation, encore une fois, la victimisation de la Turquie au sein d'un monde dominé par l'Occident, dominé par la chrétienté. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique que cette série que j'ai présentée au début soit non pas très populaire, apparemment elle est tellement mauvaise qu'elle n'arrive même pas à rameuter les convaincus, mais le simple fait qu'elle ait été financée par l'État pour établir, encore une fois, un parallèle entre Abdülhamid et Erdogan. Je commence à fatiguer. Alors tout le monde, bien sûr, essaye de participer. Une digne descendante d'Abdülhamid, authentique, déclare, n'est-ce pas, les ennemis de mon aïeul et de notre président sont les mêmes. pour quelqu'un qui vendait des parfums en ligne, des parfums qu'elle appelait parfums de sultane ou je ne sais quoi, de l'orientalisme pur et dur, c'est quand même assez extraordinaire. Mais ça vous donne une idée de la popularité de ce genre de raccourcis qui permettent d'établir un suivi, une séquence entre Abdulhamid et la situation aujourd'hui. Et cette photographie que j'ai pêchée sur le web, on voit bien que dans son bureau, il a un portrait d'Abdulhamid, et c'est encore le portrait, il est flouté, mais c'est le portrait de Fausto Zonaro. Donc c'est en tout cas un parallèle que Erdogan lui-même ne récuserait pas. Je finis avec cette pub tout à fait extraordinaire pour, encore une fois, la même série, avec un petit motto qui est, voilà, je le traduis en français, « À condition de ne pas rompre ses liens avec l'islam, toute femme ottomane peut à tout moment donner naissance à un Abdulhamid. » Et je trouve que c'est extraordinaire, parce que si vraiment vous décortiquez ce message, d'abord, son auteur n'a absolument rien compris à l'essence même de la monarchie. Ce n'est pas n'importe quelle femme, il faut être de la dynastie, il faut être un prince de la dynastie. Et surtout, c'est le côté un peu immaculé conception qui me paraît absolument sidérant et qui, encore une fois, je crois, parle énormément de la facilité avec laquelle on mélange, on amalgame toutes sortes d'éléments puisés à droite, à gauche, en Occident, en Orient, pour sortir quelque chose qui, au sein du grand public, a peut-être un certain sens, mais historiquement, n'en a aucun. Je terminerai donc sur, je vous laisse cogiter sur cette sentence, et j'en profite quand même pour vous remercier. Alors, je vous le disais, c'est la der des der, et j'ai 3 séminaires en avril, donc j'espère que vous aurez la bonté d'y assister, si cela vous intéresse. Le premier sur les médailles, le deuxième sur le massacre de 96, et le troisième avec Orhan Pamuk sur fiction et histoire. J'en profite, et je crois que c'est la moindre des choses, un peu comme aux Oscars, pour remercier le Collège de France, remercier en particulier trois administrateurs, Serge Haroche, Alain Prochian et aujourd'hui Thomas Remer, mes collègues au collège, dont en particulier Henri Laurence, qui a été à l'origine de cette initiative. C'est à lui que je dois d'avoir été candidaté. J'ai manqué de le faire lors de mon inaugural. Je le ferai cette fois-ci. Je dois remercier ma femme, Cédef, qui n'a manqué aucun de mes cours, la pauvre. Merci infiniment. Et bien sûr, vous remercier, vous, pour votre fidélité, votre assiduité. Ça a été pour moi une expérience, et je le dis sans méchanceté, extrêmement amusante, et pour moi c'est une bonne chose. C'est quelque chose de très vivifiant, c'est très différent de s'adresser à un public aussi divers et dont je dois imaginer qu'il vient uniquement parce qu'il a envie de venir, ce qui n'est pas le cas des publics auxquels je suis accoutumé à l'université. Et par conséquent, c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance que je vous salue bien bas et que je vous donne quand même rendez-vous en avril, 8, 11 et 15 avril, si vous avez le temps et l'occasion de venir suivre mes séminaires. Voilà, merci beaucoup.